Ce matin, au Radio Journal, le premier ministre haïtien cède à la pression et démissionne.
Haïti besoin de la paix. Haïti besoin de stabilité.
Un gouvernement de transition sera mis en place. Un premier navire chargé de vivres en route vers Gaza. Et des détenteurs de baux résidentiels de longue durée sont dans une impasse en Colombie-Britannique. Bonjour à tous, ici Marie-Christine Bouillon. Le premier ministre haïtien cède aux pressions de la rue et de la communauté internationale et accepte de quitter son poste. L'annonce a été faite hier à l'issue d'une réunion d'urgence des membres de la communauté des Caraïbes en Jamaïque. Un conseil de transition doit maintenant prendre les rênes du pays pour préparer des élections. Voici les précisions de Jean-Philippe Robillard.
La pression de ses partenaires des Caraïbes, tout comme la pression du gouvernement américain, était devenue trop forte. Ariel Henry a accepté de quitter son poste dès qu'un conseil présidentiel de transition sera mis en place et qu'un premier ministre intérimaire sera nommé.
Haïti besoin de la paix. Haïti besoin de stabilité. Haïti besoin de rebâtir institutions démocratiques.
Ça fait des mois que les dirigeants des pays des Caraïbes souhaitent qu'ils démissionnent pour tenter de mettre fin à la crise qui secoue Haïti et qui a pris de l'ampleur au cours des dernières semaines. Le président de la communauté des Caraïbes, Mohamed Irfan Ali.
Nous sommes heureux d'annoncer un engagement en faveur d'un accord de gouvernance transitoire qui ouvre la voie à une transition pacifique du pouvoir, à la continuité de la gouvernance et de l'action, à un plan de sécurité à court terme et à la tenue d'élections libres et équitables.
Il n'y a pas eu d'élections en Haïti depuis 2016. Chez nous, les membres de la communauté haïtienne que nous avons rencontrés estiment que c'est un pas dans la bonne direction, que ça suscite de l'espoir, même s'ils demeurent inquiets et prudents pour l'avenir de leur pays d'origine.
Chaque pas vers un déblocage de la situation, je pense, sera perçu comme une lueur d'espoir.
J'espère que ça va changer un peu.
C'est vraiment positif parce que ça fait longtemps qu'il était au pouvoir.
Quant à la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, elle se réjouit de l'accord qui a été conclu par les Haïtiens. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.
L'inflation est repartie à la hausse le mois dernier aux États-Unis à 3,2 % sur un an contre 3,1 % en janvier. Cette augmentation est notamment attribuable à la hausse des prix de l'essence et du logement. La Banque centrale américaine doit se réunir la semaine prochaine et cette hausse pourrait l'inciter à retarder la réduction des taux d'intérêt qu'elle envisageait. Au Proche-Orient maintenant, un porte-parole du Qatar affirme qu'Israël et le Hamas sont loin d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Par ailleurs, un peu plus tôt ce matin et après plusieurs jours d'attente, un premier bateau chargé de nourriture a finalement quitté Chypre en direction de la bande de Gaza. Aurélie Girard fait le point.
Ce premier bateau en direction de Gaza transporte 200 tonnes de nourriture, essentiellement de la farine, du riz et des conserves. Il a quitté ce matin le port de Larnaca, situé sur l'île de Chypre, et doit parcourir une distance d'environ 400 km en mer Méditerranée. Le voyage devrait durer une quinzaine d'heures au total, voire plus, vu le poids des denrées. Vendredi, après 5 mois de conflit, plusieurs pays se sont mis d'accord pour créer un corridor humanitaire maritime parce que le transport terrestre des vivres qui transite par le poste de Rafah, contrôlé lui par Israël, est largement insuffisant. Le transport de cette aide humanitaire par bateau aujourd'hui est donc un test pour l'ouverture d'un futur couloir maritime. Depuis plusieurs semaines, les Gazaouis sont privés de médicaments, d'eau et de nourriture. L'ONU affirme d'ailleurs que la famine généralisée est presque inévitable. En parallèle, les États-Unis ont annoncé jeudi la construction d'un port maritime au large de la bande de Gaza afin d'acheminer de l'aide humanitaire. Samedi, les autorités américaines ont confirmé l'envoi d'un premier navire avec le matériel nécessaire pour construire la jetée. Mais d'après la Maison-Blanche, il faudra attendre 2 mois afin de voir le résultat de cette construction. Ici Aurélie Girard, Radio-Canada, Montréal.
Nahid Nenshi se lance dans la course à la direction du nouveau Parti démocratique de l'Alberta. L'ancien maire de Calgary est le 6e candidat de cette course. Populaire dans la métropole, il devra convaincre le reste des néo-démocrates albertains. Les détails avec Édith Boisvert.
La nouvelle était attendue après les premières annonces de candidature à la succession de Rachel Notley. Nahid Nenshi a indiqué lundi qu'il souhaite diriger le nouveau Parti démocratique de l'Alberta lors des prochaines élections provinciales. Pour le politologue et professeur à l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily, la popularité de l'ancien maire de Calgary peut l'aider. Cependant, il fait face à un défi de taille.
Le défi de Nancy, c'est d'abord de montrer qu'il est un vrai néo-démocrate, ce qu'on commence déjà.
Le nouveau candidat à l'investiture assure être un néo-démocrate de cœur.
Les values, les droits de l'Alberta NDP sont des values que je partage. Et pour moi,
en date de lundi, en plus de Naheed Nenshi, Jody Callahoe-Stonehouse, Sarah Hoffman, Raki Pancholi, Gil McGowan et Kathleen Ganley se sont lancés dans la course. Les candidatures seront ouvertes jusqu'à vendredi. Les résultats de la course seront connus le 22 juin. Ici Edith Boisvert, Radio-Canada, Calgary.
Des détenteurs de baux résidentiels de longue durée sont dans une impasse en Colombie-Britannique. Ces résidents d'un immeuble de Vancouver font face à d'importants frais de rénovation et n'ont pas de recours pour les contester. Francis Plourde a préparé ce qui suit.
It's a shock. It's a total shock. Extremely stressful.
Audrey Swartz a eu tout un choc en recevant en février une lettre lui demandant de payer 24 000 $ au cours de la prochaine année pour des travaux majeurs dans son immeuble, et ce, sans aucun recours pour contester. Son édifice, le Hillside, dans le West End de Vancouver, est un immeuble avec des baux de location à long terme. Les résidents achètent le droit d'y habiter pendant 99 ans, mais doivent payer des frais de maintenance et pour les travaux de rénovation. Au total, une vingtaine de ces propriétés existent en Colombie-Britannique et elles ne sont pas sujettes à la loi sur les copropriétés ni à celle sur la location des locaux d'habitation. Selon Ron Fisher, porte-parole des résidents, la structure actuelle pose problème, d'autant plus que la majorité d'entre eux sont des personnes âgées avec un revenu modeste.
The main goal is to really get some legislation from the Minister of Housing.
Il voudrait que Victoria mette en place des règles d'imputabilité pour ce type de propriété et impose plus de transparence. Jointe par téléphone, la compagnie Sheridan Investments, qui possède le Hillside, a décliné toute demande d'entrevue. Le député Spencer Chandra Herbert, responsable des relations avec les locataires, admet que ces immeubles sont dans une zone grise.
Il
promet des consultations qui devraient être annoncées dans les prochaines semaines. Ici Francis Plourde, Radio-Canada, Vancouver.
À Ottawa, un comité de la Chambre des communes a décidé de lancer une enquête pour tenter de comprendre pourquoi Luca Rocco Magnotta a été discrètement transféré d'une prison à sécurité maximale à une prison à sécurité moyenne en 2022. Le comité a décidé de faire comparaître 4 témoins, dont la commissaire du Service correctionnel du Canada. Luca Rocco Magnotta purge une peine d'emprisonnement à vie pour le meurtre d'un étudiant chinois en 2012 à Montréal. Il y aura un an demain, la ville d'Amqui était en émoi après une attaque au camion bélier qui a fait 3 morts. 8 autres personnes avaient été blessées après avoir été fauchées en marchant sur le trottoir. Pauline Desmarais est l'une d'elles. La femme de 74 ans a survécu, mais pas son mari. Lisa-Marie Bélanger l'a rencontrée.
Pauline Desmarais peut danser à nouveau.
Je peux pas me passer de ça. C'est toute la rencontre aussi sociale, mes amis, rencontrer mes amis.
Après le drame, des médecins ont craint pour sa vie. Pauline a passé 5 semaines dans un hôpital de Québec plongée dans un coma artificiel. Il s'en est suivi une longue réadaptation physique.
Parce que quand je suis partie de Québec, le 1er mai, je marchais pas encore, là. Je marchais pas, là.
Son partenaire de danse, son mari pendant 51 ans, Jean Lafrenière, n'est plus à ses côtés.
Si j'arrête de faire ce qu'on faisait ensemble, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester ici à pleurer? À m'ennuyer? Non, pas question.
Elle ne garde aucun souvenir du jour fatidique qui a ébranlé toute une communauté.
Mais le dernier souvenir que j'ai de Jean, il est assis au bout de la table. J'y mets la main sur la sienne, il me regarde, il me fait un sourire. Je ne sais même pas si c'est ce midi-là ou si c'est la veille. C'est vraiment pas clair pour moi, là.
Pas question pour elle de suivre le procès de l'homme accusé d'avoir fauché des piétons. Pauline Desmarais préfère regarder vers l'avant, danser et mordre dans la vie plus que jamais. Ici Lisa-Marie Bélanger, Radio-Canada, Amqui.
Et en terminant... Il était l'auteur de cette chanson, Hungry Eyes, que vous connaissez certainement si vous avez vu le film Danse lascive. L'auteur-compositeur-interprète américain Eric Carmen est mort à 74 ans. Un de ses plus grands succès, la chanson All By Myself, a été reprise par Céline Dion sur son album Falling Into You en 1996. Voilà, c'était le Radio-Journal de Radio-Canada.